Nous sommes mercredi 8 mars 2017, il est 21 h et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Bonsoir Zergy. Voilà.
Ah ouais, non,
il y a sa bouche rouge.
On n'entend pas Zergy. La bouche est rouge, mais on ne l'entend pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, voilà. On va essayer de résoudre le petit problème technique de Zergy en espérant qu'il puisse nous rejoindre d'ici la fin de l'émission. Parce que quand même, c'est un peu dommage, sauf que ça la fout un peu mal. Aujourd'hui, nous allons parler de... Alors, si vous pensez qu'on essaye d'éluder un événement important qui s'est passé vendredi dernier, à savoir... la sortie d'une éventuelle console plus ou moins avec succès de Nintendo, ce n'est pas le cas. Hein. On parlera de la Switch, mais pas aujourd'hui. Ah, on parlera de Zelda, mais pas aujourd'hui.
On va parler un peu de la Switch quand même dans l'actu, non ?
On va parler un petit peu de la Switch dans l'actu quand même, mais voilà, on parlera pas. Pour le... enfin, la plupart, je crois qu'Antix c'était le seul à pas l'avoir essayé, parce que du coup, Drosgar... enfin, non, Zergy aussi, mais Drosgar, tu l'avais essayé, donc tu avais déjà pu te faire une bonne opinion dessus. En tout cas, en première prise en main.
J'étais déjà content.
T'étais déjà content. Donc je pense qu'en fait, on parlera de la Switch et de Zelda. Alors peut-être pas la semaine prochaine, peut-être encore la semaine d'après, histoire qu'on ait vraiment le temps. Enfin, qu'il y ait au moins quelqu'un qui arrive à finir le jeu, parce que pour l'instant, c'est très compliqué d'arriver au bout.
Oui, ça va être un petit peu dur. Je pense que je vais devoir poser un week-end pour pouvoir y jouer.
Ah, complètement, mais ça va être un, ça, c'est un jeu marathon de folie. Donc de toute façon, ça va être très compliqué d'en parler. Mais j'aimerais bien qu'on ait au moins quelqu'un qui l'ait fini pour arriver à en parler.
Bah ceci. Franchement, avec 30 heures de jeu en 5 jours, je pense que je suis sur la bonne voie.
Je sais pas, hein.
Justement, parlant de 30 heures, de ce que j'ai compris, si tu fais la quête principale normalement, t'en as à peu près pour ce temps-là.
Ah oui, mais je fais d'autres trucs, hein, t'inquiète pas.
Oui, c'est comme Xenoblade en fait.
Bah, si tu le fais en mode rush, il y a peut-être moyen, quoi.
Si tu vas directement, tu fais le boss final.
Bref. Enfin, non, on va commencer par notre traditionnel tour de table de l'actu. Drosgar a une petite actualité qui dure 30 secondes.
Donc, oui,
je laisse
un peu
la
comme.
Main à Drosgar.
Ouais. Tout le monde aime mettre des choses dans sa bouche, on est d'accord.
Oui.
Ouais, c'est peut-être pas la bonne manière de commencer une news, ça. Bon, en gros, on n'aime pas que nos enfants meurent. C'est peut-être pas la bonne manière non plus, en fait.
Ouais.
Il te reste que 10 secondes.
Bon, maintenant...
Je te rappelle que si tu mets... Attends, si tu mets ton oreille contre la poitrine de ton bébé, et que tu écoutes attentivement, tu peux entendre le son de tes amis qui font la fête sans toi.
C'est ça, alors, les enfants. T'inquiète pas, pense à tes enfants, ils sont bien avec toi. Mais du coup, si tu veux, tu pourras les faire s'étouffer maintenant. Mais pas avec des cartouches de Switch, car en effet, leur texture et leur matière a été conçue pour que le goût soit tellement mauvais que les gamins auront très peu de chances de s'étouffer avec.
Voilà, donc si vous parce essayez, on a vu... le même goût que les choux de Bruxelles.
Voilà, alors, on rappelle que c'est une protection pour les enfants, mais pour l'instant, c'est surtout des adultes qui ont testé.
Voilà, parce qu'on a eu pas mal d'articles, assez putaclic, on va dire, qui parlaient de... On a testé les cartouches de Switch. Bon, vu comme ça, ça a l'air un peu con, mais en fait, non, il y a un vrai sens derrière, et c'est vraiment parce que les cartouches ont été enveloppées de benzoate de dénatonium. Oui, je lis hein, simplement, je sais pas du tout ce que c'est, et apparemment, c'est un agent amertume 1000 fois plus fort que la quinine. Donc, en gros, c'est vraiment bah, pas con comme idée, parce que c'est vrai que les cartouches, pour ceux qui ont la Switch, sont vraiment très petites, et là, un enfant aurait très peu. Très peu de grandes chances de s'étouffer avec, contrairement à une cartouche de Nintendo 64 ou de NES.
Ah oui, clairement, il y a... Franchement, j'étais impressionné par la petite taille de la cartouche.
C'est une petite carte SD, quoi.
C'est plus petit qu'une carte de 3DS, quoi.
Ouais.
Ce qui donne à peu près le niveau, et enfin, déjà, la boîte est pas très grande, alors en plus... quand j'ai ouvert mon colis Amazon, je me suis dit, mais ils l'ont foutu où, le jeu? En fait, je l'ai trouvé sous les papiers, mais c'était très étrange, mais je sais qu'il l'avait oublié.
Mais c'est vrai que la question que moi je me pose, c'est est-ce que c'est Nintendo qui s'est dit « Ah merde, les enfants pourraient l'avaler, il faudrait mettre quelque chose » ou est-ce que c'est les autorités de régulation des jouets qui ont dit « Attendez, non, là c'est trop petit, ça rentre dans le cadre 3+, je sais pas quoi, machin, donc il faut absolument que ce soit dégueulasse. » Enfin, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est une volonté? C'est la seule question qui reste en suspens à laquelle Nintendo n'a pas répondu.
Bon, je pense qu'ils se connaissent quand même en produit pour les enfants, suivant le contrôle parental. Bon, je pense que c'est quand même une question qui se sont posées à un moment. Ouais, mais les enfants en bas âge, comment on fait pour qu'ils l'avalent pas, quoi?
Je suis en train de regarder.
Mais du coup, est-ce que vous avez testé, est-ce que vous avez essayé de lécher vos cartouches pour voir, ou est-ce que vous tentez pas le coup?
Alors, non, j'y ai pensé, et je me suis dit après que j'allais être aussi intéressant qu'un rédacteur de Gameblog, et que je n'aurais plus ma place ici, donc je préférais
mettre... T'aurais été journaliste, t'aurais eu un salaire, contrairement ici.
Mais attends, je rentre pas à Gameblog, faut réussir à caser des boobs, hein.
Oui, voilà, je suis d'accord, c'est un qui nous a rejoint, ouais, il a réussi à mettre les boobs dans sa première phrase, c'est une grande victoire.
Donc en fait, j'avoue que j'ai mis la cartouche dans la console après y avoir pensé pendant quand même 30 secondes.
Mais après, tu peux la mettre à plein d'autres endroits différents.
Exactement.
Je suis très étonné que Gameblog ait pas déjà essayé d'ailleurs. Gameblog, si tu nous écoutes...
Bah après, si tu la fous dans ton cul, c'est sûr que ça aura pas bon goût. Hein.
Gameblog, oh, si tu nous écoutes... Jamais, hein. Tu peux aussi faire le test, est-ce que le Joy-Con rentre dans ton cul et le HD Rumble a fait vraiment son effet. Moi personnellement, j'attends l'article avec grande impatience. Hein.
Madame Jordan n'a pas encore testé.
Non, parce que le problème c'est qu'avec les boules, c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut quand même bouger le Joy-Con, quoi. Je veux dire, c'est vraiment la galère. Le plus, c'est qu'il n'y a pas de réaction sur le truc.
Non mais on commence déjà à mourir parce qu'on peut pas jouer à Zelda pendant une heure, donc.
Voilà, c'est de pire en pire cette émission.
Hein. Cette émission n'a plus aucun sens.
C'est ça.
Bref, je vais enchaîner, parce que Antix voulait tenter de faire une actu, puis finalement il a dit vas-y, je m'en tape, je joue à Zelda.
Ouais, c'était juste pour parler du lancement de la Switch, qui est dans l'ensemble plutôt positif. La console de mémoire s'est coulée à peu près 300 000 exemplaires au Japon, ce qui est un petit peu mieux que la PS4 et la Wii U en leur temps. Mais ça reste inférieur à ce qu'avait pu être la Wii et la 3DS, à titre d'exemple. Nintendo America, par la voix de Reggie Fils-Aimé, se vante du très très bon lancement de la console aux États-Unis, ainsi que de Zelda, qui est selon eux la meilleure vente pour un jeu de lancement sur une console Nintendo depuis Mario 64.
C'est la meilleure vente pour un jeu de lancement sur une console Nintendo qui n'était pas en bundle avec la console depuis Super Mario 64. Voilà.
Voilà, autant dire que c'est du bullshit.
Voilà, dans la catégorie est beaucoup trop spécifique.
Et en France, on a eu les chiffres de mémoire. Alors, au Royaume-Uni, 80 000 exemplaires, ce qui est un très bon score pour une console Nintendo, puisque en Angleterre, ce connard de la perfide Albion n'apprécie pas trop le bon jeu vidéo. Et en France, je crois que c'est à peu près équivalent, voire un petit peu au-dessus, puisque le pays est historiquement favorable à la console Nintendo. Mais je sais plus si on a de chiffres. Si
oui, chez nous, c'est 105 000 unités.
Voilà, ce qui me semble est quand même plutôt un bon score. Là, j'ai plus de point de comparaison.
Alors, Alors, le point de comparaison que moi j'ai, c'est que a priori en France, il y a 510 000 Wii U en circulation.
Voilà. Bon, alors après.
C'est quand même pas dégueulasse.
C'est quand même un lancement relativisé. Ça veut pas dire que la console se vendra bien ou pas. Globalement, le chiffre de lancement ne dit que si c'est un bon lancement ou pas. On verra par la suite si ça se confirme ou pas.
Et
en
on remercie Antix, ce futur rédacteur à Gameblog.
C'est ça.
Pour cette conclusion.
Alors, j'ai goûté les chiffres. J'ai goûté les chiffres de vente de la Switch et je peux vous dire que ça n'a aucun goût. À part le goût de l'argent.
Je tiens juste à préciser un truc sur les chiffres de vente. Sur la première semaine, du coup, donc la même durée que la sortie de la Switch. Il y a eu 96 000 Zelda Breath of the Wild qui ont été vendus en version physique sur Switch. Donc ça veut dire qu'il y a 91% des possesseurs de Switch qui ont acheté une version physique de Zelda. Donc sans compter tous ceux qui ont pu l'acheter en démat et ceux qui ont acheté d'autres jeux, les connards qui n'ont pas acheté Zelda.
Bah, en même temps, en toute honnêteté, le mec qui achète une Switch et qui achète pas Zelda, c'est quand même... Enfin, you mad, bro? Enfin, je veux dire,
ouais, je vois pas pourquoi il achète la console, quoi. Autant attendre Noël, voir l'encore.
Non, mais voilà, si tu me trouves un mec qui l'a acheté pour 1-2 Switch, respect.
Bah, c'est un super jeu quand même.
Non, j'ai pas dit que c'était mauvais. Hein. Il est en train de se ramasser une tôle monumentale.
Il a eu 2 sur 5 sur Pixel.
Non, mais voilà, il est en train de se ramasser une tôle monumentale par tous les critiques.
Ceci dit, c'est plutôt bien vendu au Japon.
Bah, je pense qu'en fait, c'est un bon jeu d'apéro, c'est un jeu raclette, comme tu disais, et. Ça marche bien comme ça, quoi. Bah, après, en fait, oui, en tant que jeu vidéo pur et simple, et en tant qu'objet vidéoludique, voilà, c'est de la merde en bouteille, ok, très bien. Maintenant, ça n'empêche pas de s'amuser avec, quoi. Et le truc joue quand même énormément sur les quiproquos et sur le fait que tu mets des trucs dans ta bouche et que faut tout nettoyer après. Bref. Donc il est dégueu, quand même, comme jeu. Ça, c'est bien.
Un peu.
Non, mais ça, c'est bien, quand même.
Mais on prendra un jour, hein, en solde...
Je pense qu'il va baisser assez rapidement parce que là, 50 euros, je pense que Nintendo se touchait un peu le cul de toute façon.
Il y a des chances.
Et voilà, à 20 euros en démat, je pense que pas grand monde aurait gueulé sur le sujet. Là, c'est peut-être un peu beaucoup. Bref, dernier petit sujet d'actualité avant la première pause musicale, le Left Joy-Con Gate. Alors, comme vous le savez, comme vous l'avez peut-être lu, la Switch a été lancée, donc non sans problème technique. Pour l'instant, il y a trois problèmes techniques essentiels qui sont relevés. La première, c'est qu'il y a certaines consoles qui ont un écran qui est particulièrement jaune. Ça touche assez peu de monde apparemment, c'est une question de calibration de l'écran. Il est possible que une mise à jour vienne simplement corriger la calibration par défaut de l'écran. Donc on espère que ce sera le cas pour les pauvres gens qui ont un écran qui est vraiment jaune pisse. Hein. J'en ai vu quelques-uns, ça fait un peu mal. Le deuxième petit problème, c'est les gens qui arrivent à rayer leur Switch sur leur dock. Alors très honnêtement, je ne sais pas comment ils font.
Si, docteur du...
Ce sera un défaut de fabrication voilà. Du dock. Alors, de ce que j'ai pu voir, juste un petit peu avant le début de l'émission, ça pourrait être un bout de caoutchouc dans le dock, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ou alors, la partie où tu glisses la console qui peut être un petit peu gondolée. Donc c'est à ces endroits-là qu'il faut faire attention.
Donc il y aura un vrai défaut par contre sur certaines docks du coup, parce que moi j'ai regardé sur les
apparemment c'est sur certains docks. Moi honnêtement pour l'instant elle a fait quelques allers-retours, elle est pas rayée. Et j'ai pas d'écran jauni non plus, donc j'ai dû tomber sur le bon lot. C'est toujours possible en plus, c'est vraiment du plastique le dock. Il y a rien d'autre, ça a pas l'air non plus extrêmement rigide, il suffit qu'il y ait eu un gros choc, une descente de conteneur et voilà quoi. Il est un peu niqué.
D'accord, ça par contre, j'avais pas ce détail-là.
Les écrans jaunis, en fait, c'est ils ont mis les fins de série des écrans de Wii U.
Pas mal, pas mal.
Le pire, c'est que c'est un peu vrai. Mais le plus important, en fait, le problème technique le plus important, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui se plaignent que le Joy-Con, particulièrement de gauche, a des problèmes de synchronisation et se désynchronise régulièrement ou envoie un signal qui est pas suffisamment précis et qui fait que de temps en temps tu contrôles plus Link, tu machin, ça marche pas. Alors le problème a apparemment été identifié par un certain nombre de bidouilleurs. Il y a l'antenne Bluetooth du Joy-Con de gauche qui est mal placée en fait à l'intérieur du Joy-Con et dans certains cas bien précis on peut se retrouver à avoir facilement la main dessus. Il y a en plus un petit bout de métal juste à côté. Donc tout ça, ça n'aide pas, ça affaiblit le signal Bluetooth, qui est déjà pas extraordinaire. Par contre, je tiens quand même à rappeler qu'une manette de PS4 ne fonctionne pas à plus de 10 mètres de la console, parce que c'est du Bluetooth et que ça marche pas, donc tous les gens qui ont commencé à gueuler parce que les Joy-Con ne fonctionnaient pas à plus de 10 mètres, c'est pas la peine, hein, c'est du Bluetooth aussi, ça marchera pas. Pour l'instant, il y a quelques bricoleurs qui ont réussi à faire des trucs, notamment, alors il y en a un qui a arraché le petit bout de métal en question, parce qu'a priori il sert pas à grand chose. Ça améliore la connectivité, ça fait un truc, un problème de moins. Et il y a une autre solution à base de soudure, c'est-à-dire aller souder un fil de cuivre un peu dégueulasse, qui va servir d'antenne et en fait et redescendre en bas du Joy-Con à l'endroit où il n'y a pas de main qui va toucher, où il n'y a rien qui peut se mettre sur l'obstacle. Je rappelle que quand les Joy-Con sont branchés sur la Switch, ils sont en mode filaire, donc là il n'y a pas de souci du tout. Et je rappelle que quand on joue sur le Joy-Dog, c'est pareil, on n'a pas de soucis du tout parce que les mains sont pas placées de la même manière. Donc normalement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes de désynchronisation, à condition évidemment d'être sur des distances raisonnables.
Attends, du coup, ça veut dire que le gros du problème de désynchronisation, c'est quand tu as les deux manettes détachées de la console et qui sont pas sur le Joy-Dog, c'est-à-dire que tu les as en mode libre.
En mode libre, en gros, 99% des problèmes, c'est ça. Et après, c'est les problèmes de distance, c'est-à-dire que de ce que j'ai compris... Ça reste du Bluetooth, donc en termes de portée, c'est relativement limité. Moi, pour vous donner une idée, j'ai une oreillette Bluetooth sur mon PC, par exemple. Si je m'éloigne à plus de 5 mètres, c'est mort, je reçois plus rien. Hein. Mais vraiment, je veux dire, le Bluetooth n'est absolument pas fait pour faire des distances au-delà
de 5 à 6 mètres. Non, c'est de la très courte distance, hein, le Bluetooth.
Ça reste de la très courte distance. J'ai une manette de PS4, en général, laisse tomber au bout de... je me souviens plus du truc exact, mais c'est genre au bout de maximum 10 mètres. À 10 mètres, elle marche pas, et déjà à 7-8 mètres, elle marche pas terrible. Voilà. Apparemment, là, les Joy-Con, c'est un peu moins, c'est-à-dire que le Joy-Con de gauche, à partir de 4-5-6 mètres, il commence à avoir du mal, si, effectivement, on le tient directement dans la main. Ça peut quand même être un petit peu gênant dans certains cas. Ce qu'on ne sait pas, c'est si il s'agit effectivement aussi des premiers badges de console qui étaient foireux, c'est-à-dire d'un problème sur le Joy-Con gauche, si c'est juste une question de bol, si Nintendo pourra corriger en amplifiant le signal directement sur le firmware du Bluetooth du Joy-Con de gauche, ou s'ils vont être obligés d'aller remplacer les Joy-Con en déplaçant l'antenne en termes de design. Voilà. On ne sait pas exactement. Maintenant, toutes les consoles ont des problèmes au lancement, je pense que c'est quand même nettement moins pire que beaucoup d'autres, mais c'est toujours un petit peu ennuyeux.
Ouais, si corrige rapidement, c'est ira. Mais pour le Bluetooth, c'est comme l'iPhone 4. Ils vont te fournir une espèce de capote à mettre autour du Joy-Con.
Ouais, je sais pas, peut-être. Peut-être qu'ils vont faire un truc un peu dégueulasse comme ça. Moi, mon avis, si Nintendo aurait quand même très largement intérêt à corriger le problème de design du Joy-Con de gauche, parce qu'apparemment, il y a vraiment quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que effectivement, dans un laboratoire électronique au Japon, tout devait très bien marcher, mais dès qu'on arrive dans le salon des gens, avec les perturbations électromagnétiques ambiantes, avec la télé qui émet aussi des perturbations électromagnétiques, avec voilà, tout un tas de trucs, moi, ça me paraît assez évident que c'était quand même moins gagné. Donc, soit ils vont essayer de corriger le problème de manière software, je sais pas si ce sera possible, soit, à mon avis, ils auraient quand même intérêt à dire aux gens, écoutez, si votre Joy-Con de gauche marche pas, on vous le remplace par un nouveau qui est mieux designé, parce que, à mon avis, sinon, ça va quand même un peu gueuler. Parce que là, c'est quand même l'essence même de la console, la manette. Si la manette fonctionne pas, on passe un peu pour des cons. Bref. On va faire une première petite pause musicale. Comme il est sorti ou va sortir, je sais même pas si il est vraiment sorti. Spectre of Torment, il est sorti encore ou pas?
Oui, oui, il est sorti.
D'accord.
Normalement, oui.
J'avais un doute avec autre chose. Donc, on va s'écouter un petit morceau de Spectre of Torment. C'est le remix de Pride More Keep, qui est le deuxième château, si je dis pas de bêtises. Ou le premier, je me souviens plus.
Je pense que personne n'y a joué ici, parce que tout le monde est occupé à jouer à Zelda.
Zelda!
Tout à fait, mais vous avez joué au Shovel Knight normal, et en fait, c'est un remix de ce morceau-là.
D'accord.
Voilà. Qui est un très bon remix. Alors, la plupart des morceaux de Spectre of Torment sont un petit peu décevants. Notamment, il y a un remix de La Danse Macabre, qui était la musique du niveau Lichyard, qui est une musique vraiment juste extraordinaire en version originale, et dont le remix dans Spectre of Torment est juste atroce. Celle-ci passe plutôt bien. C'est pas extraordinaire, mais ça passe plutôt bien. Quand Jake Kaufman remixe Jake Kaufman, il y a des fois où il se débrouille pas mal. Voilà. Donc on s'écoute Pride More Keep sur la BO de Shovel Knight Spectre of Torment. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes. Ah, tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour. Faut grimper pour repérer la carte.
Voilà. Et nous ne parlerons pas de Zelda. Ça va être très compliqué pour vous. Parce que là, la pause musicale, je peux vous garantir qu'elle y va. Hein. C'est très 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 compliqué.
Ça spoil la mort. Alors le boss final, c'est Ganon. Merde, fallait pas le dire.
Oh là là. Et au début du jeu, t'es sur le plateau du
prélude. Non, pardon, on dit pas Ganon, on dit Ganon.
Maintenant, on dit Ganon officiellement.
Voilà, ça m'a fait bizarre les voix françaises, mais ce n'est pas le sujet.
Non, voilà, c'est pas le sujet. On va pas y arriver. Hein. Ça va être très compliqué comme émission. Bref, on voulait parler de Nintendo sur mobile parce qu'on
alors, a. Alors Zelda sur mobile.
Oh putain.
Ça y est, il est parti.
Il a ouvert le coffre de Pandore.
Alors vous savez qu'il y a une application du petit cuisinier qui existe, qui a été faite par un mec pour justement t'aider à faire des plats plus savoureux, machin. Donc tu donnes les effets recherchés, il te dit les ingrédients idéaux.
On la trouve comment?
Je ne sais pas du tout.
Trop bien.
Je sais que c'est le truc du petit cuisinier. Ah.
De toute façon, je l'avais dit, la cuisine dans Zelda, c'est ce qu'il y a de mieux, et je pense que le cochon d'Inde, je devrais le tester comme plat.
Mais moi, je pense que cochon d'Inde, champignon, corne de bokoblin, tu fais un truc énorme.
Ça fait un bon remède.
Ça fait un très bon remède. Bref, donc, Nintendo sur mobile, on a eu deux vrais jeux mobiles. Alors après, Miitomo, qui était pas...
Miitomo, c'est une espèce d'application réseau social. Voilà. C'était sympa, mais...
C'était une tentative, c'était...
Disons que une fois que t'avais pigé le concept de base, il n'y avait plus rien à faire.
Voilà. Pokémon Go, qui n'était pas vraiment fait par Nintendo, qui était fait par Niantic, et qui était assumé, on va dire, par la Pokémon Company, éventuellement assumé, mais en tout dernier rang par Nintendo.
Bah, en fait, toujours des gens qui jouent, hein. C'est fou, mais...
Bah, la seconde génération a dû relancer un petit peu l'intérêt, mais Pokémon Go, c'est là où tu vois que c'est pas trop un... Un jeu Nintendo, c'est parce que les finitions est vraiment au rabais.
Et à côté de ça, Nintendo sort donc deux vrais jeux. Super Mario Run qui est sorti sur iOS, qui sortira bientôt sur Android, si je dis pas de bêtises. Ou qui est déjà sorti sur Android, non, je crois pas.
Non, il sort sur Android ce mois-ci, mais on n'a pas de nouvelles pour l'instant.
Et voilà, il n'y a peut-être pas de date officielle. Et Fire Emblem Heroes, qui lui est sorti sur iOS et Android, donc lui déjà disponible sur les deux plateformes et qui marche relativement bien. Alors, deux jeux radicalement différents, deux modèles économiques totalement différents. On va commencer par un truc très 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 bête, hein, mais du coup, que valent vraiment ces deux jeux ? Avant de s'intéresser à l'aspect business, modèle économique, comment Nintendo va gérer ça, qu'est-ce que ça vaut ? Alors je propose de commencer par Fire Emblem Heroes, parce que moi j'y ai pas joué, mais je sais qu'Antique ça commence à bien le saigner, je sais pas si Drosgar tu y as joué.
J'y ai bien joué, mais moins qu'Antique, je pense.
D'accord. Zergy, je sais pas si t'as eu l'occasion de tester l'un ou l'autre.
Mon téléphone n'est pas compatible.
Oh oh, il a un Windows Phone ?
Non, Firefox OS.
Ah oui, bah d'accord. Donc effectivement, je comprends. C'est un peu compliqué.
Firefox OS, ça existe ?
Firefox OS, ça existe et c'était très bien.
Windows Phone, je me respecte, monsieur, s'il te plaît.
Oui, non, mais ça peut arriver. Mais Firefox OS, je te félicite, c'est un très bon OS pour mobile. C'est dommage que ça ait foiré. Bref, donc, monsieur Antix, le cochon d'Inde, tu...
Voilà. On va le buter, ce cochon d'Inde.
Non, mais il va vraiment finir à la casserole. Monsieur Antix, donc, Fire Emblem Heroes, c'est quoi le principe ? Et est-ce que le jeu est bon ? Alors, je sais que tu as déjà écrit un article et ce qui suit est incroyable, mais je te demande de nous faire un petit résumé.
Tu m'as niqué ma blague. J'allais dire, il y a peut-être sur Nintendo Domain, allez le lire, voilà.
Alors, vous pouvez aller le lire pour avoir les détails sur Nintendo Domain. Nous, ce qu'on veut, c'est la version un petit peu concentrée.
Vous avez 20 minutes, revenez dans 20 minutes quand vous l'aurez fini de le lire. Quoique non, il est plutôt court.
Si vous nous écoutez en podcast, sortez votre téléphone, allez lire l'article sur Nintendo Domain, mettez à pause, hein, c'est agréable, mais voilà.
Je vais résumer plus ou moins ce que j'ai dit là-bas. Donc Fire Emblem Heroes, c'est un jeu free-to-play qui reprend donc les codes de Fire Emblem sur mobile en les simplifiant et les adaptant pour le format. Donc ça se traduit par... on a toujours des cartes, des damiers avec damiers pour des batailles stratégiques. Mais là où dans les Fire Emblem classiques, les cartes sont plutôt grandes et opposent ton armée qui fait une dizaine de personnages contre une trentaine en face. Là on a des cartes de 6 cases par 8 où des armées de 4 unités s'affrontent de manière générale. Enfin, en tout cas c'est la règle de base. Et à côté de ça, on va retrouver à peu près tous les classiques de la série, que ce soit le triangle des armes, les bâtons pour soigner, les magiciens, les dragons, les unités volantes, les généraux. Donc il y a aussi un petit système de classes. Évidemment, il y a aussi des armes qui sont très efficaces contre certaines classes. Et tout ça dans un jeu qui est vraiment pensé pour le mobile, avec des batailles qui vont durer entre 2 et 3 minutes la plupart du temps. Et le tout avec un modèle free-to-play de type gacha, qui est le truc un petit peu en vogue au Japon en termes de jeu free-to-play, le concept étant plutôt simple. Dans le jeu, il y a un type de monnaie à récupérer, donc dans le cas de Fire Emblem, ce sont des orbes, qui servent un petit peu à tout, mais qui vont surtout servir à recruter des personnages de façon aléatoire via un menu dédié. Et dans le cas de Fire Emblem Heroes, ces personnages, ce sont les héros que l'on connaît ou pas, parce qu'il y a, dans le cas des épisodes sortis au Japon, que l'on va pouvoir recruter de façon complètement aléatoire. Donc pas de recrutement sur le champ de bataille, là c'est, tu balances tes sous dans la machine à sous et tu pries pour avoir celui que tu veux.
D'accord, et c'est... pour la partie jeu en lui-même, est-ce que ça marche ? C'est-à-dire 6 sur 8, ça fait quand même super limité comme terrain de jeu. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est pas trop répétitif ? Est-ce qu'on arrive à s'en sortir ? Est-ce que c'est du PVP ou est-ce que c'est du PVE d'ailleurs ? Parce que je n'ai même pas posé la question. Mais...
Le gros du jeu, on va dire que tu as une espèce de scénario principal qui est vraiment une excuse bidon. C'est deux royaumes qui s'affrontent et en fait, dans ces royaumes-là, ils peuvent ouvrir des portails pour accéder aux autres mondes de la série. Donc là c'est vraiment un mode pur PVE avec des cartes déjà construites. D'ailleurs les cartes sont souvent des hommages aux cartes de la série des mêmes jeux. Si on a un petit peu l'œil, on peut repérer globalement le layout de la carte qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pu connaître dans l'épisode en question. Donc il y a un petit scénario et tout, et au gros le but de ce mode scénario c'est de se familiariser avec le jeu.
C'est une espèce de gros tuto quoi.
Voilà, après il y a des modes de difficulté supérieurs, où là c'est vraiment de plus en plus dur. Et l'intérêt, c'est que tu vas, quand tu vas faire une victoire, tu vas gagner, à chaque fois que tu vas gagner, remporter une carte, tu vas gagner une orbe la première fois que tu l'as fini. Donc ça, c'est vraiment le truc pur PvE. Et après, on a, enfin, il y a aussi côté, on a des cartes d'entraînement, des cartes un petit peu spéciales, où tu peux recruter un personnage en particulier. Enfin, c'est vraiment des trucs événementiels avec une durée limitée. Ce qui fait que tu vas pouvoir revenir tous les jours et pouvoir trouver d'autres cartes spécifiques. Et on a une espèce de mode PvP, qui est dit asynchrone. C'est qu'en gros, dans le jeu, il y a une arène. Et le but de cette arène, c'est d'enchaîner les victoires en affrontant des équipes faites par d'autres joueurs. Et en fait, c'est là où le mode un peu free-to-play va commencer à se sentir. C'est que dans le jeu, évidemment, tous les personnages ne sont pas aussi forts, enfin, n'ont pas la même puissance. Enfin, c'est le cas aussi dans un Fire Emblem classique, hein. On va pas se mentir. Mais en plus donc, de cette différence de puissance d'un personnage à l'autre, t'as aussi un système d'étoiles. Et dont le meilleur est 5 étoiles, mais c'est évidemment les personnages les plus rares. Et c'est là où, en fait, dans ce mode arène, où tu vas sentir que les gens qui payent sont un petit peu plus avantagés. Parce qu'ils ont souvent plus de personnages 5 étoiles ou plus de personnages puissants. Et voilà, c'est là où il y a un petit déséquilibre dans le jeu, on va
dire. Donc c'est quand même un pay to win.
Non, c'est pas un pay to win parce que tu peux toujours t'en sortir. Les personnages, même les personnages considérés comme les plus puissants, sont loin d'être invincibles, ils ont tous des faiblesses. Typiquement, Takumi, pour ceux qui ont connu. Héritage, est un des personnages les plus forts du jeu, puisque donc il a un arc qui est à peu près aussi. Enfin, déjà, il était très fort dans Héritage. Et en gros, là, il a un bonus, c'est que il peut contre-attaquer au corps à corps.
Oh putain!
Donc.
Ça, j'essaie juste d'imaginer Takumi qui contre-attaque au corps à corps, parce que Takumi est déjà un personnage ultra violent.
Voilà, alors ceux qui ont fini Conquête savent ce qui s'est passé dans le chapitre 23 lorsque Takumi en boss final décide de contre-attaquer au corps à corps. C'est très très dur.
Et là t'as mal, t'as très mal.
T'as très très mal. Il m'a one-shot un personnage une fois d'ailleurs. Donc, ce qui fait qu'il est quand même très puissant et très dangereux, parce qu'il a en plus de bonnes stats. Mais tu peux toujours gagner, parce que bon, l'IA, on va pas se mentir, est vraiment pas terrible. Et ça reste un jeu stratégie, donc si tu places bien tes unités, que tu gères bien, tu peux te débarrasser même des mecs très forts. Après, je pense qu'il y a des configurations où oui, c'est extrêmement pénible de gagner. Mais comme il y a toujours moyen d'affronter des équipes plus faibles, et que c'est pas, encore une fois, c'est pas des modes de jeu obligatoires. C'est pas vraiment un pay to win.
D'accord, donc ça reste un bon jeu sur mobile, mais qui finalement révolutionne pas le genre. C'est vraiment c'est Clash of Clans ou quelque chose comme
voilà,
ça.
Voilà.
C'est vraiment un jeu de ce genre-là finalement où tu fais une petite partie vite fait, ça dure 2 minutes et il y a
Clash
pas
Royale.
Un... Clash Royale. Royale ouais.
De toute façon, le jeu est régi par un système d'énergie où à chaque fois que tu fais une carte, ça te demande un certain coût et ça se régénère au fil du temps. Donc c'est pas un jeu qui est fait pour être saigné en l'espace d'une après-midi. Et c'est plus un jeu sur lequel tu vas revenir de temps en temps. Ils font des événements régulièrement, ça c'est plutôt chouette. Là, dernièrement, ils ont lancé une espèce de tournoi entre différents personnages du jeu, où tu peux choisir de rentrer dans une équipe et en gros, enfin, de soutenir un des personnages. Et toutes les demi-heures, tu peux faire un combat. Et en fait, les règles de ce combat sont assez spécifiques, puisque t'as des équipes de 3 et t'as qu'un personnage. Tu choisis qu'un seul personnage, et deux autres, c'est des personnages de ta liste d'amis, par exemple, qui jouent à la bataille. Donc t'as un petit côté revenir régulièrement et change un peu les règles sur certains modes. Donc je pense qu'au niveau du suivi, pour l'instant, ils sont plutôt bons, donc il y a un intérêt à revenir régulièrement. Par contre, c'est pas un jeu sur lequel tu vas passer 20 heures d'affilée en week-end, hein. Voilà, ça c'est clair.
Donc ça reste quand même dans l'état d'esprit qu'a Nintendo jusqu'à présent avec Super Mario Run aussi, dont on parlera tout de suite après. C'est-à-dire que finalement, on reste dans l'état d'esprit, je vais tuer ce cochon d'Inde, ce qui est un état d'esprit un petit peu... C'est aussi un état d'esprit. Non, on reste dans un état d'esprit de, on fait un jeu qui est pour mobile, donc qui est adapté à la plateforme, qui est pas un jeu sur lequel on va passer 20 heures d'affilée, c'est pas Zelda sur lequel on passe 35 heures en 5 jours, n'est-ce pas, Drosgar, en négligeant ses études, vilain.
N'est-ce pas, Drosgar,
je vois qu'à mon année, hein. Je suis un célèbre avocat, vous inquiétez pas.
Mon dieu, le pire, c'est que cette personne, un jour, va se retrouver sur le marché du travail.
Et le pire, c'est peut-être qu'il va nous défendre façon Phoenix Wright.
Ça sera formidable.
C'est objection. Ah non, ça n'existe pas.
Il n'y a pas en France.
Je sais bien. Donc, ça reste du jeu qui est adapté pour du mobile. C'est-à-dire, c'est pas un vrai Fire Emblem. C'est un jeu de stratégie avec une skin Fire Emblem des événements pas trop mal foutus, et puis voilà, quoi.
Bah, dans l'ensemble, le... ça reste quand même respectueux de Fire Emblem, dans le sens où vraiment le gameplay, lui, est repris du jeu. Je crois pas qu'il y ait un autre free-to-play qui ait un gameplay aussi spécifique, et la majorité des éléments de gameplay du jeu sont issus de Fire Emblem. Et moi, ma pensée à l'heure actuelle, c'est... le jeu est sympa, et je suis pas très fan du modèle free-to-play, franchement je trouve que c'est le genre de modèle qui peut te pourrir des bonnes idées, ce qui est un petit peu le cas ici, avec cette histoire de recrutement aléatoire. Mais j'aurais bien aimé avoir un Fire Emblem un peu dans ce genre, peut-être avec des mécaniques un peu moins simplifiées, un peu plus de complexité, sur mobile, avec une vraie histoire par contre, plus proche de ce qu'on peut avoir sur portable à l'heure actuelle. Mais adapté au format mobile, parce que je trouve que en soi la transition est plutôt réussie.
D'accord.
En fait, ouais, vas-y.
Non, vas-y, je t'en prie.
J'aurais bien aimé pour les invocations, justement, qui est la seule partie payante, on va dire, du jeu, que l'on puisse choisir nous-mêmes la couleur des invocations que, enfin, par exemple, avant d'arriver à l'endroit où on avait 5 orbes, que l'on choisisse d'abord les orbes que l'on met, et ensuite que l'on paye le coût d'invocation. Ça aurait été plus simple plutôt que de tomber à chaque fois sur un aléatoire et tomber par exemple sur 4 bleus, 1 vert, alors que tu cherches absolument un archer.
5 rouges.
Oui, ou 5 rouges par exemple.
J'ai vu ça il n'y a pas longtemps.
Et c'est vrai que c'est le genre de petit détail qui peut faire vraiment quitter le jeu, parce que le nombre de personnes que je vois sur Twitter qui se plaignent en tombant sur une série de 3 avec un seul 4 et aucune couleur qu'ils voulaient, c'est assez désespérant et assez lassant pour le jeu.
Ouais, ben c'est le modèle gacha qui veut ça. C'est que ouais, si tu veux le personnage que tu veux, va falloir payer, quoi. Tout le modèle se base là-dessus. Hein.
Ah oui, c'est sûr.
Mais à côté, je trouve aussi qu'ils ont fait de très bons efforts sur tout ce qui est la partie visuelle, parce que effet même sonore d'ailleurs, parce que tous les personnages sont doublés, même ceux qui n'étaient pas avant. Et surtout, ils ont redessiné absolument tous les persos qui sont présents dans le jeu ont été redessinés par des illustrateurs. Japonais dans l'ensemble, et on a
y compris la meuf du Nord à gros nichons.
Ouais, bah elle a toujours des gros nichons. Hein.
Ouais, bah voilà, c'était le seul personnage intéressant du Nord.
Voilà, bah non, mais enfin ils ont été repris. Les designs sont globalement les mêmes.
Non, mais elle avait vraiment une personnalité intéressante.
Ouais, elle avait deux gros atouts, tu vois.
Physiquement intéressant.
C'est bien, c'est bon, on les a tous faits. C'était la journée de la flamme. Bon. On vous remercie.
D'ailleurs, je l'ai hein, dans le jeu, la fille à gros nichons. Hein.
Ah bah voilà, bah tu vois, t'as géré.
Bah évidemment, je l'ai pécho. Et du coup, j'en étais où moi? J'ai des trucs intéressants à un moment.
Ouais, je suis pas sûr.
Bon bref, non, mais par contre, il y a une finition derrière qui est quand même là. J'ai testé d'autres free-to-play un peu dans ce genre-là. Et je dois avouer quand même que le Fire Emblem est plutôt... c'est celui qui m'a le plus accroché, mais je pense que mon amour pour la série, il joue beaucoup. En tout cas, derrière, on sent une forme d'amour quand même pour la série, même si derrière, voilà, il y a les orbes... Et les orbes pour te faire raquer pour que t'aies ton Takumi. Hein.
Oui, mais enfin, c'est un petit peu logique. Je vous propose d'enchaîner sur Super Mario Run, parce que je pense être le seul à l'avoir essayé.
J'ai essayé juste 30 secondes chez quelqu'un.
Moi, j'attends d'avoir une version Android.
Pareil.
Ouais, je me doutais. Alors moi, j'ai pu l'essayer sur iPhone. J'ai pu essayer une version complète très récemment grâce à un collègue. Alors, je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'ai pu aller jusqu'à la fin du monde 2 ou 3. Donc j'ai quand même eu un bon aperçu du jeu. Donc pour ceux qui ne savent pas, Super Mario Run, c'est un runner, un infinite runner. Non, c'est pas infinite parce qu'il y a quand même une fin au niveau. L'idée, c'est que la seule chose qu'on peut faire dans le jeu, c'est sauter. C'est-à-dire que Mario court automatiquement vers la droite, et en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est appuyer pour sauter. Le jeu est fait pour fonctionner en mode vertical, enfin pour avoir le téléphone en mode vertical, ou la tablette en mode vertical, et on peut y jouer à une seule main. Ce qui est très pratique parce que du coup, avec l'autre, on peut faire plein de choses. Voilà, ça m'appelle
comme faire la cuisine.
Exactement, moi ça m'appelle un petit peu ces hentai games où il y avait toujours un mode main libre. Très pratique. Non mais, faut être honnête, tu payes pour ça, voilà. Donc, alors Super Mario Run, c'est un petit peu moins le style hein, en termes de hentai game. Ça reprend un style graphique qui est finalement très très proche de ce qu'on avait vu sur New Super Mario Bros. U.
Ceci dit, tu me dis que c'est pas hentai game, mais c'est un jeu quand même dont le seul but est de sauter. Hein.
On est d'accord, mais il n'y a pas vraiment d'effet bouncy boobs sur Mario. Un petit peu sur son bide, mais c'est pas non plus...
C'est plus son nez, généralement, qui bouncy à l'atterrissage.
Voilà,
ça peut plaire à d'autres personnes, hein, on sait jamais.
Écoutez, s'il y a des fétichistes du nez qui nous écoutent, effectivement, ça peut être intéressant. Voilà. Enfin bref, donc c'est un jeu qui est conçu pour être joué à une seule main. Et effectivement, on y joue à une seule main. C'est-à-dire, la seule chose qu'on fait, c'est appuyer sur l'écran quand il faut sauter. On appuie plus ou moins longtemps pour pouvoir sauter plus ou moins haut. Ou pour pouvoir, on va dire, en quelque sorte, prendre de l'élan. On peut arriver à faire sauter Mario en arrière en essayant de le faire rebondir contre un mur ou un truc comme ça, mais il faut en général trouver l'astuce pour le faire. Ça fait partie un petit peu des trucs rigolos du jeu. C'est-à-dire, tu te dis, il y a une pièce qui est derrière moi, le seul moyen que je l'attrape, c'est... Ah bah, il faudrait rebondir sur tel mur, tel mur, tel mur pour arriver à avoir un tout petit élan en arrière pour arriver à la récupérer. C'est pas si facile que ça. C'est-à-dire, arriver au bout de chaque niveau, c'est pas très compliqué. Mais arriver à choper toutes les pièces violettes, enfin vraiment arriver à essayer de finir entre guillemets les niveaux à 100%, pas si évident que ça du tout. Et au final, c'est plutôt amusant. Alors pareil, ça reste un jeu mobile, c'est-à-dire c'est pas un truc que tu vas jouer 18 heures d'affilée en mode tryhard, je vais essayer de faire un 100% sur Super Mario Run, je pense que personne ne fait ça. Mais ça reste un jeu agréable pour passer le temps dans le métro, pour passer le temps dans le bus, pour jouer dans l'ascenseur pour aller à la cantoche. Enfin voilà, ça reste un truc sur lequel tu peux sortir le mobile, passer 15 secondes dessus sur un niveau, le refermer, et ça marche. Le modèle économique est un petit peu particulier, puisque le jeu est... T'as les trois premiers niveaux qui sont gratuits, et ensuite faut payer 11,99€, je crois.
C'est pas 10€, hein.
Ou 10€, je sais plus exactement.
Bah, personnellement, je trouve ça...
10,99€.
Alors, il y en a qui... Enfin, c'est vrai que sur le coup, beaucoup de monde a dit que c'est cher pour le jeu mobile, où la majorité des jeux sont à 2-3€, à part chez Square Enix, où ils sont à 15 balles. Mais moi, je trouve ça quand même plus sain que Solid Fire Emblem Heroes, hein, très sincèrement.
Alors déjà, je trouve que le modèle économique est plus sain, mais en dehors de ça, ce que disait Florent Gorge, je pense que vous connaissez tous.
Oui, soutien-gorge.
Non, ça, c'est ce que tu dégrafes. Non, attendez. Florent Gorge, qui est un, on va dire, un spécialiste français de l'histoire de Nintendo, disait le problème, c'est pas que Super Mario Run soit cher, le problème, c'est que tous les autres jeux mobiles sont pas assez chers, en réalité, par rapport au temps de développement qu'ils demandent et à l'énergie qu'ils demandent. Voilà. Donc le modèle économique, il est pas forcément déconnant. Bon, ça reste un jeu très agréable. Maintenant, c'est un principe qui est quand même relativement simpliste. C'est-à-dire, je pense que Fire Emblem Heroes est un jeu un peu plus profond que Super Mario Run. Faut se creuser un petit peu la tête de temps en temps pour trouver le bon chemin, sauter au bon moment et ainsi de suite. Mais ouais, c'est quand même très limité. Hein.
Ceci dit, c'est un peu à l'image de Fire Emblem et de Mario de façon traditionnelle. Hein. Mario, ça reste toujours très simple dans le gameplay, même s'il y a quand même beaucoup de subtilité en tout ce qui concerne la gestion des sauts.
Bah, Mario, oui, ça reste assez subtil, entre guillemets, c'est-à-dire que ça demande quand même une certaine dextérité.
Je sais pas si c'est le cas pour ce Mario Run, moi j'avais toujours cette impression quand même, on avait cet esprit, alors, c'est le New Super Mario, donc je suis un peu moins connaisseur que les Mario 3D par exemple, mais j'avais toujours l'impression qu'il y avait ce côté, voilà, bien faire ses rebonds, bien faire ses parcours... Ils font pour moi la qualité des bons jeux de plateforme 2D, quoi.
Alors, c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, tu as le côté bien faire ses rebonds, bien faire ses sauts. T'as un petit côté calculer son itinéraire quand même, parce que si tu veux arriver à choper tous les bonus, bah, y a des fois, t'es obligé de passer par certains endroits. Et le truc rigolo, c'est que bah, de temps en temps, tu vas passer en bas, t'as un chemin en haut, un chemin en bas, tu vas passer en bas, puis tu vas t'entendre « Ah oui, merde, mais non, il y a une pièce en haut !» Donc en fait, il faut recommencer le niveau, et à un moment, il faut se débrouiller pour arriver sur le chemin du haut pour pouvoir choper la pièce. Mais voilà, le jeu est fait pour encourager la rejouabilité, et je viens, à l'image d'un Mario, finalement, encourager la rejouabilité en t'encourageant à essayer de trouver, finalement, tous les petits secrets dans le truc et à mieux maîtriser tes sauts, donc à appuyer plus longtemps, à lâcher au bon moment. Voilà. C'est vraiment bien fait, pas de soucis là-dessus. Mais ça reste assez simpliste sur le principe. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est pas un vrai Mario. Ça reste un Mario, une adaptation de Mario. Si on devait faire quelque chose avec Mario, effectivement, c'était le truc le plus cohérent à faire.
C'est plutôt fidèle, du coup.
Oui, sur le principe, oui. J'ai tendance à dire que c'est plutôt fidèle sur le principe. C'est-à-dire très simple à comprendre, pas forcément si évident que ça à maîtriser, relativement subtil dès que tu veux essayer de faire des choses un petit peu intéressantes. Donc là-dessus, on respecte quand même à peu près le principe d'un Mario. En termes de modèle économique, parce qu'à un moment, il va falloir quand même en parler.
Bon, on a déjà parlé un petit peu des deux côtés, mais...
On a déjà parlé un petit peu des deux côtés. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est le fait qu'on ait deux jeux de chez Nintendo qui sortent la même année, pratiquement.
Oui.
Les premiers.
Les premiers, qui adoptent deux modèles économiques totalement différents. C'est-à-dire, d'un côté, on a Super Mario Run qui est démo gratuite, et puis c'est payant, et c'est pas payant, c'est payant relativement cher par rapport... à ce qu'on trouve d'habitude sur jeux mobiles. on a dit à peu près 10 euros. Alors qu'effectivement, d'ordinaire, la fourchette, c'est plus 2, 3, 4 euros. Alors à 2, 3, 4 euros, ça peut être un achat impulsif. À 10, ça l'est quand même nettement moins. D'ailleurs, le taux de transformation, entre guillemets, de Super Mario Run, c'est-à-dire les gens qui l'ont téléchargé et qui l'ont acheté derrière, c'est de l'ordre de 5 à 6%.
C'est ouais, c'est... de mémoire, c'était au moment où ils en avaient 40 millions de téléchargements, c'était 4 millions d'acheteurs.
Voilà, ce qui est déjà pas mal.
C'est pas si mal que ça, mais voilà, c'est de l'ordre de à peu près 10%. De ce que j'ai compris, les analystes experts que nous avons estiment que sur Android, ce sera encore moins.
Oui, ça...
Parce que les mecs ont des Android sont des gros radins.
Ils
craquent.
C'est souvent ce qui a été constaté. Enfin, moi, quand je travaillais au Louvre sur leur application mobile, le constat, c'était que les gens sont plus prêts à payer sur iOS que sur Android. C'était il y a 4 ans, je pense pas que ça ait trop bougé depuis, parce que j'ai toujours l'impression que c'est pareil.
Le marché iOS est un peu réduit. Hein.
Le marché iOS est un peu réduit, mais l'utilisateur iOS est plus prêt à dépenser pour acheter une application que l'utilisateur Android.
Il a déjà raqué pour un téléphone à 1000 boules, donc effectivement, il est plus à ça près.
Ceci dit, n'oublions pas que le marché Android est beaucoup plus vaste que le marché iOS, donc en termes de nombre de personnes... Oui, mais je crois que même en tant que pourcentage, hein, c'est au-dessus.
Alors, le truc, c'est ça, c'est toujours le même. Si tu fais 10% de conversion sur 40 millions, c'est pas mal. Si tu fais 1% de conversion sur 400 millions, de toute façon, t'es gagnant aussi. Hein.
Donc, ceci dit, je serais assez curieux de savoir combien de jeux mobiles ont rapporté autant que Super Mario... Enfin, de jeux mobiles, on va dire, avec un qui doit être acheté, ont rapporté autant que Super Mario Run. Ça, c'est des chiffres que t'as jamais, mais
Je serais assez curieux de savoir aussi. Alors après, je pense qu'il y a des jeux mobiles qui doivent rapporter pas mal, parce que quand tu fais de la pub à la télé avec Schwarzenegger Strike, download an app store,
je retire les free-to-play qui sont vraiment une niche à part, dans le sens où c'est beaucoup d'appelés pour peu d'élus, et c'est très souvent 0,5% des gens qui dépensent la grosse majorité des sommes, ce qui est très probablement aussi le cas pour Fire Emblem Heroes d'ailleurs. Là, je parle de jeux qui sont vendus
payant, quoi, globalement. Ou payant, quoi. Payant dès le départ, ou éventuellement avec une démo, puis payant après.
Des jeux comme Monument Valley ou Outver, qui, par contre, pour y accéder, eux, tu dois payer, quoi.
Effectivement. Donc, c'est peut-être... Je sais pas à quel point ce genre de jeu-là se vend. C'est vrai que ça caracole rarement en tête des applications les plus téléchargées.
Non seulement... Généralement, ils ont leur propre classement sur iOS, genre les applis payantes, les applis gratuites. Mais le point important, c'est que c'est du démat. Je crois que même... je ne sais plus ce que ça donne au niveau de l'accès des chiffres de téléchargement. Au final, c'est la discrétion du développeur pour pouvoir donner les chiffres. Donc au final, s'il ne communique pas sur ce genre de chiffres, nous, on ne sait jamais. Quoi.
Ah, complètement. Au final, c'est un peu, voilà. Un peu le grand mystère. Quoi.
Ceci dit... Il me semble que Tonton Kiki, pendant la réunion des investisseurs, avait plus ou moins fait comprendre que ouais, c'était pas trop mal Mario, mais ça aurait pu être mieux, quoi. Ils étaient un petit peu déçus par le taux de transformation.
Alors, ils étaient peut-être un peu déçus par... Enfin, ça, quand même, à mon avis, ça a été rentabilisé relativement largement.
Il y a des chances, vu que le moteur, il l'avait déjà.
Complètement, non mais voilà. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est est-ce que le fait que Super Mario Run ait été, entre guillemets, une petite déception, ça a entraîné le fait que Fire Emblem Heroes devienne un free-to-play, ou est-ce que de toute façon Fire Emblem Heroes avait été conçu comme un free-to-play dès le départ?
C'est obligatoire qu'il ait été conçu comme un free-to-play dès le départ.
Voilà, moi c'est ce que j'avais pensé, ou à peu près. Ce que je trouve le plus étonnant, c'est effectivement, est-ce qu'il y a d'autres modèles économiques que Nintendo pourrait expérimenter pour trouver la bonne formule? Est-ce qu'ils vont baisser le prix de Super Mario Run ou des jeux de ce type-là à un moment pour essayer de se caler? Moi, je ne sais pas. Je considère que 10 euros, c'est pas du vol. Franchement, le jeu, il est vraiment sympa. Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre 10 euros dedans? C'est un peu à l'appréciation de chacun.
C'est ça.
C'est plus compliqué que ça à dire. Maintenant, en termes de modèle économique, je me dis, voilà, Nintendo a déjà deux expériences. Une expérience en free-to-play qui avait l'air de pas trop mal marcher. Et une expérience avec un jeu payant où ils avaient l'air de dire qu'ils étaient un peu déçus, mais je pense qu'ils sont quand même largement rentrés dans leurs frais. Donc, vous pensez qu'ils ont encore d'autres choses à expérimenter de ce point de vue-là, ou est-ce que finalement ils ont à peu près fait le tour de ce qu'on pouvait faire sur mobile? Il y a finalement pas grand-chose, hein. Soit on paye directement, soit c'est du free-to-play.
Bah, globalement, c'est les deux gros modèles économiques du mobile. Il ne semble pas qu'il y en ait vraiment d'autres, à moins de faire de l'épisodique sur mobile, hein, ce qui est faisable. De toute façon, le prochain gros test, ce sera Animal Crossing. qui à mon avis sera un free to, enfin sera sûrement un free to play, parce que je pense que c'est vraiment une série Nintendo qui s'y prête le mieux. Toute la partie, enfin déjà Animal Crossing, franchement pour moi c'est un jeu portable avec un rythme quotidien. Tu fais des petites sessions d'un quart d'heure, tu vas chercher tes pommes, tu vas creuser tes fossiles, c'est autre chose. Donc moi j'attends de voir ce qu'ils font pour Animal Crossing, mais honnêtement je pense qu'ils peuvent le mettre en payant, ils se vendront aussi par camion entier quoi.
Franchement bah, oui.
Oui c'est bien possible.
S'il est suffisamment bien foutu et qu'ils font un truc. Ils sont pas dans la facilité d'un Farmville par exemple, là il y a moyen de faire un très gros succès mobile je pense avec Animal Crossing.
Non mais par contre s'ils avaient fait un... Comment ça s'appelait déjà le Animal Crossing qui était sorti qui avait pas trop plu...
Happy Home Designer.
Ouais, s'ils avaient fait celui-là sur mobile par exemple, il se serait extrêmement bien vendu parce que c'est typiquement le genre de jeu qui collerait bien. Sans ouais. modèle de carte NFC mais qu'on aurait acheté directement à 1€, €1 le pack par exemple, ça aurait été parfait.
Ouais, et pour finir un petit peu d'ailleurs sur cet aspect, parce que j'y repense un peu en Animal Crossing, moi ce que j'aimerais savoir c'est, alors bon, pour Iron a priori ce sera pas le cas, mais quel genre d'interaction on va pouvoir avoir entre les applications mobiles Nintendo et leurs jeux, parce que là je pense typiquement à Fire Emblem, il y aura très certainement des interactions ou des événements pour la sortie des jeux de la série, bah, on verra sûrement ça en mai avec la sortie de Echoes. Mais du coup, enfin, Animal Crossing, moi, c'est vraiment peut-être le jeu que je verrais le mieux interagir avec une version Switch. Ou par exemple, ben ouais, typiquement, un Home Designer, tu fais ta maison dans la version mobile.
Et puis tu l'importes. Enfin, ça la télécharge automatiquement sur ta version Switch.
Voilà, c'est ça. Ou même, tu as une. Enfin, ça peut être un peu comme le truc Chaos que t'avais sur la version. Enfin, le jeu Chaos que tu avais sur GBA avec la version GameCube de Sonic Adventure 2, où bah, dans la journée tu fais ton petit truc sur la version mobile d'Animal Crossing, tu arrives chez toi, tu poses ton téléphone, parce que maintenant ils sont tous NFC, sur la puce NFC de ta manette Switch, bam, ça se transfère en ton jeu, tu vois, ce genre de choses.
C'est clair qu'il y aurait vraiment des choses à faire de ce point de vue-là. Effectivement, dans l'appli Companion, le mot est un peu moche, mais voilà, ça ferait comme ça. Il y a pas mal de choses à faire, mais Nintendo a déjà commencé à faire de l'appli Companion, puisque le contrôle parental de la Switch, on revient dessus, fonctionne. Alors on peut le mettre seulement sur la console, hein, mais quand on peut aussi juste aller télécharger l'application contrôle parental pour aller faire tout un tas de trucs dessus.
Ouais, et puis même, t'avais le Pokéwalker du remake de Or et Argent, c'est typiquement de la Companion App avant l'heure. Hein.
Complètement, hein. Je suis à peu près certain qu'effectivement dans le domaine de la Companion App, à mon avis, on n'a pas encore tout vu. Et je suis finalement presque déçu que le guide du petit cuisinier de Zelda, Breath of the Wild, n'ait pas été fait par Nintendo, parce que ça aurait vraiment été, à mon avis, une super opération à faire, de dire ah, vous avez téléchargé ça, et puis vous voulez faire un tonic de scie, vous pouvez prendre tel et tel et tel ingrédient. Alors peut-être que ça aurait gâché pour certaines personnes le côté plaisir de découverte de je mets tout dans une marmite, je vois les ingrédients sauter et à la fin ça fait un truc. C'est vrai que c'est quand même assez rigolo à voir, mais en même temps, à un moment, si t'as envie de rationaliser ta partie, ça peut être intéressant d'avoir un truc à côté comme ça, qui te permet de dire « Ah putain, ce serait bien que j'ai tel type de tonique, comment je pourrais faire ?» et te débrouiller comme ça.
Après, là encore, tu disais juste avant que les téléphones ont maintenant des puces NFC, on aurait très bien pu faire une application qui était vierge à la base, et dès que l'on créait des recettes dans le jeu, on pouvait mettre notre téléphone dessus pour l'enregistrer, et derrière, après, avoir une sorte de petit guide qu'on a fait nous-mêmes dans notre téléphone. Mais en fait, ça aurait été bien fait par Nintendo.
Tout à fait. On aurait pu effectivement.
C'est exactement à quoi je pensais là actuellement.
Ah merde.
Juste bah tu poses ton téléphone et hop t'as la liste de recettes et du coup bah au lieu de sortir le menu en jeu tu ouvres ton téléphone tu regardes tes recettes.
Mais voilà, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait être fait. À votre avis, est-ce que Nintendo, enfin est-ce qu'il faut s'attendre à une réponse de la part de Sony ou Microsoft sur le sujet, sachant que Nintendo c'est pas les premiers qui se sont lancés dans le jeu sur mobile, il y avait déjà des mastodontes du jeu sur mobile depuis quelques années, notamment racheté par Activision pour des sommes folles, je pense à c'est King.
Oui, c'est ça, c'est King.
C'est ça. Qui était racheté pour une seule folle alors que le truc vaut à peu près rien. Enfin, étant périclite en fait depuis qu'Activision les a rachetés.
Oh, même depuis qu'ils sont rentrés en bourse, généralement ils périclitent à ce moment-là.
Voilà, ça commence un peu à stagner. Moi, j'ai l'impression que du côté Sony, Microsoft, enfin dire des acteurs plus traditionnels, des constructeurs de consoles plus traditionnels, on reste très prudent sur le sujet et que finalement, il n'y a pas grand-chose qui sort et que les mecs osent pas vraiment. Donc, je vais pas dire que Nintendo, pour l'instant, ils sont rentrés. Tout le monde a dit que ça allait être une catastrophe. Finalement, ils sont rentrés. Ça marche plutôt pas trop mal. C'est peut-être pas aussi bien que ce qu'ils espéraient, mais ça marche pas trop mal. Est-ce que vous pensez que ça va ouvrir des vocations?
Ah, corrige-moi si je me trompe, Sony, mais il me semble qu'ils ont sorti une gamme de jeux. Alors, je crois que c'est plutôt des remakes ou des portages de jeux PlayStation ou ce genre de choses sur Android. Enfin, spécialement pour Sony Ericsson, et ils avaient sorti une version de leur téléphone justement avec qui était que tu pouvais. C'était pas un clapet, mais genre.
C'était le Xperia Play.
Voilà, c'est celui-là, où tu avais la manette en dessous.
Tout à fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu avais un Play Store spécial dedans. Enfin, tu avais le PSN Store qui était accessible dedans pour télécharger des jeux PSP.
Ouais, d'accord. Donc, ça
a fait un gros four. Hein.
D'accord, c'était pas vraiment ça.
C'était pas tout à fait ça. Voilà.
Bah, après, faut se rappeler aussi pourquoi Nintendo fait du jeu mobile. C'est qu'ils se sont bien rendu compte que. Une partie de leur cœur de cible qui était les enfants, maintenant vont plus jouer sur tablette et sur smartphone. Donc du coup, le taux de pénétration de leur licence auprès du jeune public marche un petit peu moins.
Sans aucun jeu de mots.
Ouais, attends, laisse pas finir en disant ça très, très sérieusement. Et du coup, de façon à pouvoir pénétrer ce jeune public, Nintendo a posé ses couilles sur la table et décidé de sortir une grosse batterie de jeux mobiles pour pouvoir toucher aussi ce public. Donc il y a une certaine logique aussi derrière ce qu'ils ont fait, on va pas se mentir.
Après, Nintendo, contrairement à d'autres constructeurs, vend ses licences, il vend pas des jeux. Enfin, derrière, personne n'irait acheter Super Mario Run si c'était pas Mario qui était derrière.
Ah,
enfin,
oui.
Y a Emblem pareil, personne n'irait y jouer.
C'est clairement parce que c'est des licences fortes qu'ils ont, ce que n'ont pas forcément les autres, Sony et Microsoft. Enfin, surtout, ils manquent de licences qui peuvent se décliner très facilement sur des formats que... Qui sont moins puissants, parce qu'en vrai Uncharted, c'est une licence plutôt forte, mais je vois mal Uncharted sortir sur téléphone mobile, quoi.
Mais tu pourrais faire un runner, quoi, un peu comme un runner, je sais pas quoi, ou...
Le problème, c'est que la réputation d'Uncharted, c'est des explosions partout, les graphismes, c'est beau,
oui, effectivement, c'est peut-être pas...
Cinematic mais... experience.
Quand t'as basé toute ta com là-dessus, oui, faire un jeu mobile à côté, t'as l'air con.
C'est ça.
Voilà, maintenant, Super Mario Run comme Fire Emblem Heroes en termes de finition, c'est quand même. Enfin, Fire Emblem Heroes, je sais pas, mais je sais que Super Mario Run en termes de finition, le jeu est quand même assez léché. Il y a quelques problèmes d'ergonomie de temps en temps, mais le truc est quand même assez, assez cool. Donc, effectivement, s'il n'y avait pas Mario dedans, ça aurait été l'un des milliers de runners ultra génériques qu'il y a sur mobile, et ça se serait peut-être pas vendu de manière extraordinaire. Maintenant, ça reste. À la base, un bon jeu, c'est-à-dire que même si t'enlevais Mario, ce serait quand même pas mal.
Oui, mais Fire Emblem, niveau finition, il y a des petits soucis de traduction à droite à gauche. Enfin, j'en ai vu quelques-uns. Mais dans l'ensemble, le jeu est plutôt bien fini. Moi, j'avais cette impression d'avoir un jeu qui fonctionnait dès le début, quoi. Et qui était bien pensé, bien fini, bien fignolé. Qui respirait le travail bien fait, et je pense que c'est pour ça qu'il a mis un peu plus de temps que prévu à sortir, puisqu'il devait sortir en automne à la base, et pas au mois de février. Mais voilà, mais je pense que de toute façon, le plus gros problème de Nintendo sur mobile à l'heure actuelle, c'est qu'ils cherchent encore un petit peu, mais surtout ils sont arrivés peut-être un petit peu tard, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites.
Ils arrivent pas sur un terrain vierge, ils arrivent clairement pas en premier.
Et à part Miitomo, qui est plus ou moins une expérience, on va dire, Mario Run et Fire Emblem Heroes, malgré leur qualité, ne respectent pas non plus l'originalité sur mobile. Ça reste des modèles et des types de jeux qui fonctionnent déjà.
Mais est-ce qu'on peut vraiment réinventer la roue sur mobile ? Je veux dire, on est quand même limité par l'interface, on est limité par les capacités de l'appareil. Effectivement, il y a des choses intéressantes à faire, mais bon.
Avant de jouer à Breath of the Wild, est-ce que tu pensais qu'on pouvait réinventer Zelda ?
Oui.
D'accord. Bon, bah, mon argument tombe à l'eau, merci, au revoir.
Non, mais moi, très honnêtement, enfin, en même temps, c'est un peu particulier parce que j'ai fini Legend of Zelda sur NES il y a 3-4 ans pour la première fois. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je crois que j'ai jamais joué. J'avais joué à Zelda 2 et Zelda 3, mais jamais au Zelda 1. Et oui, je me disais que tu reprends cette base-là et tu la mets dans un monde en 3D et tu agrandis machin et ça te fait un Zelda. Le Zelda d'Emerdenzizich, je pensais sérieusement que c'était faisable. Après, est-ce qu'ils auraient les couilles de le faire ? Là, c'est un autre débat.
Ça, c'est autre chose. Mais non, le jeu mobile, je pense qu'il y a toujours moyen d'exploiter le support. C'est juste que maintenant, c'est un support qui existe depuis maintenant 10 ans. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites dessus, quoi. Il se trouve que juste il y en a qui marchent mieux que les autres, et donc du coup les gens ont plus tendance à aller vers ça que vers des jeux un petit
des
peu plus...
Des choses plus originales.
Enfin, je citais Outvert et Monument Valley, pour moi c'est des jeux mobiles qui exploitent très bien leur support, mais que j'ai pas... à l'heure actuelle, j'ai pas vu cloner des millions de fois, quoi.
Bah peut-être parce que ça rapporte effectivement pas grand-chose par rapport aux bêtes runner ou aux bêtes...
Alors, sur le plan vidéoludique, moi, ça fait partie de mes... Enfin, c'est mes deux expériences mobiles favorites que je cite allègrement dès qu'on parle de jeux sur support, quoi.
Effectivement, je comprends. Je connais pas mal de gens qui disent que sur mobile, effectivement, il y a des expériences très intéressantes à faire. Il y a des choses vraiment bien faites, qui exploitent bien le support, qui sont très agréables à jouer. Maintenant, c'est effectivement pas ce qui va rapporter des milliers d'essences. Ça reste des jeux un peu de niche, parce que je pense que, malheureusement, le public des jeux sur mobile, ça reste un peu monsieur et madame tout le monde, qui, en termes de jeux vidéo, reste sur des choses assez basiques, et dès qu'on leur propose des choses un poil raffinées, désolé, ça a l'air d'être un peu arrogant comme ça, comme discours, mais je pense que c'est quand même pas loin de la vérité. Dès qu'on propose des choses un tout petit peu raffinées, les gens sont largués, et ça les intéresse pas de payer pour ça.
C'est des jeux qui sont plus pour un public de connaisseurs comme toi et moi ou Rosgar, de connoisseurs, que pour monsieur tout le monde. C'est pas grand public.
C'est pas grand public.
Déjà, c'est des jeux qui sont payants direct. Il n'y a pas de free to play, il n'y a pas de free to start. Il faut que tu passes à la caisse, quoi, directement.
Mais non, voilà, donc c'est vraiment, ça s'adresse à un public qui est déjà un public de joueurs à la base. Je reste persuadé que les gens qui sont de vrais joueurs, il n'y en a pas tant que ça dans le monde en réalité. Et voilà, ça représente un public de peut-être, je sais pas, 100 millions de personnes dans le monde maximum, donc forcément c'est pas des publics énormes. En termes d'audience, ça représente finalement pas grand-chose. Par rapport à Monsieur Tout-le-Monde qui a un smartphone dans sa poche, qui va aligner 3 fruits dans un machin pour les éliminer.
Voilà, mais pour le coup ça reste peut-être ma plus grosse déception pour l'instant avec les jeux Nintendo sur mobile, c'est que ça manque de jouer un petit peu comme ça... Sente le jeu Nintendo qui est prêt à arriver sur un support qu'il connaît pas et à essayer de faire des choses avec que les autres ne font pas encore ou font très très peu. Et pour l'instant, c'est ma plus grande déception avec Super Mario Run et Fire Emblem Heroes, c'est que ce sont des bons jeux, je pense sincèrement, mais j'ai l'impression de les avoir déjà vus.
Oui, c'est un petit peu vrai. Bon, je vous propose d'arrêter cette émission là.
Oui.
Ça fait
déjà une heure.
Ça fait déjà une heure.
On va parler de Zelda la prochaine fois.
Alors, je sais pas si on parlera de Zelda la prochaine fois ou
Je serai pas là la semaine prochaine, donc si ça pouvait être dans 2 semaines.
Mais du coup, la semaine prochaine, on parle de One to Switch.
Ouais, mais là, je.
Ah, je serai pas là non plus, dommage. Juste... oh là là.
Non, mais pour autre chose, j'aimerais bien faire.
Sinon, on peut tenter l'émission sans table de l'actu et on commence par One to Switch et après on fait sur Zelda.
On peut tenter des trucs comme ça. De toute façon, on verra bien, on va y réfléchir. On avait de la visibilité jusqu'à présent, jusqu'à la 4e émission. Là, maintenant, ce serait bien qu'on en retrouve. Faudra parler de Zelda. Je pense que ça va être une très très longue émission. Donc, de toute façon, on va peut-être zapper le tour de table de l'actu et simplement diviser l'émission en 1 ou 2. Je pense qu'on aura Cyrard qui participera, par exemple, parce que ça lui ferait probablement plaisir de venir en parler.
Il faudra une émission rien que pour les recettes.
J'avoue.
Oui.
Est-ce que tous les auditeurs voient à quel point on a des branlots, là, ou pas?
Oui, un peu, ouais.
Ouais.
Mais c'est pas grave. Non, ils voient à quel point l'émission est très bien organisée. Et on fait pas du tout le programme d'une semaine sur l'autre à la fin de l'émission en mode casu, en mode tu veux venir la semaine prochaine. Non, tout va bien, franchement, tout va bien.
Je crois que t'as oublié de couper en fait.
C'est une émission d'un professionnalisme que je qualifierais de tellurique. C'est-à-dire on a atteint le niveau Gameblog à peu près.
Du coup, ce sera la surprise de la semaine prochaine sur ce qu'on fait.
C'est le professionnel jusqu'au bout.
Bref.
Nous allons nous quitter avec la citation du jour qui se veut être un message de paix envers l'humanité, un message contre le racisme. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule race, celle qu'on se met le week-end.
Merci.
Je vous remercie, ça me fait plaisir. On se dit à la semaine prochaine, ta gueule et mes Tetris, ciao tout le monde, bisous.
Salut.
Salut.
Ah, j'ai pas coupé nos voix. Merde.